Chapitre troisième. Très grave, murmura M. Formery après une minute de réflexion. Malheureusement, il sourit. Malheureusement, votre révélation est entachée d'un gros défaut.
Ah, lequel?
C'est que tout cela, M. Lupin, n'est qu'une vaste fumisterie. Que voulez-vous? Je commence à connaître vos trucs, et plus ils me paraissent obscurs, plus je me méfie.
Idiot. Grommela Lupin.
M. Formery se leva. Voilà qui est fait. Comme vous voyez, ce n'était qu'un interrogatoire de pure forme, la mise en présence des deux duellistes. Maintenant que les épées sont engagées, il ne nous manque plus que le témoin obligatoire de ces passes d'armes, votre avocat.
Bon,
est-ce indispensable? Indispensable. Faire travailler un des maîtres du barreau en vue de débats aussi problématiques.
Il le faut.
En ce cas, je choisis Maître Quimbel. Le bâtonnier, à la bonne heure, vous serez bien défendu. Cette première séance était terminée. En descendant l'escalier de la souricière, entre les deux d'Hauteville, le détenu articula, par petites phrases impératives, qu'on surveille la maison de Geneviève. Quatre hommes admeurent. Madame Kesselbach aussi. Elles sont menacées. On va perquisitionner, Villa Dupont, soyez-y. Si l'on découvre Steinweg, arrangez-vous pour qu'il se taise. Un peu de poudre au besoin.
Quand serez-vous libre, patron?
Rien à faire pour l'instant. D'ailleurs, ça ne presse pas. Je me repose. En bas, il rejoignit les gardes municipaux qui entouraient la voiture.
À la maison, mes enfants, s'exclama-t-il, et rondement. J'ai rendez-vous avec moi à 2 heures précises.
Le trajet s'effectua sans incident. Rentré dans sa cellule, Lupin écrivit une longue lettre d'instruction détaillée aux frères d'Hauteville et 2 autres lettres. L'une était pour Geneviève.
Geneviève, vous savez qui je suis maintenant, et vous comprendez pourquoi je vous ai caché le nom de celui qui par 2 fois vous emporta toute petite dans ses bras.
Geneviève, j'étais l'ami de votre mère, ami lointain dont elle ignorait la double existence, mais sur qui elle croyait pouvoir compter, et c'est pourquoi, avant de mourir, elle m'écrivait quelques mots et me suppliait de veiller sur vous. Si indigne que je sois de votre estime, Geneviève, je resterai fidèle à ce vœu. Ne me chassez pas tout à fait de votre cœur. Arsène Lupin.
L'autre lettre était adressée à Dolores Kesselbach.
Son intérêt seul avait conduit près de Madame Kesselbach le prince Cernin, mais un immense besoin de se dévouer à elle l'y avait retenu. Aujourd'hui, que le prince Cernin n'est plus qu'Arsène Lupin, il demande à Madame Kesselbach de ne pas lui ôter le droit de la protéger, de loin, et comme on protège quelqu'un que l'on ne reverra plus. Il y avait des enveloppes sur la table, il en prit une, puis 2, mais comme il prenait la 3e, il aperçut une feuille de papier blanc dont la présence l'étonna, et sur laquelle étaient collés des mots, visiblement découpés dans un journal, il déchiffra. La lutte avec Altenheim ne t'a pas réussi. Renonce à t'occuper de l'affaire, et je ne m'opposerai pas à ton évasion. Signé L. M. Une fois de plus, Lupin eut ce sentiment de répulsion et de terreur que lui inspirait cet être innommable et fabuleux. La sensation de dégoût que l'on éprouve à toucher une bête venimeuse, un reptile.
Encore lui, dit-il, et jusqu'ici.
C'était cela, également, qui l'effarait. La vision subite qu'il avait, par instant, de cette puissance ennemie, une puissance aussi grande que la sienne, et qui disposait de moyens formidables dont lui-même ne se rendait pas compte. Tout de suite, il soupçonna son gardien. Mais comment avait-on pu corrompre cet homme au visage dur, à l'expression sévère?
« Eh bien, tant mieux, après tout, s'écria-t-il. Je n'ai jamais eu affaire qu'à des mazettes. Pour me combattre moi-même, j'avais dû me bombarder chef de la sûreté. Cette fois, je suis servi. Voilà un homme qui me met dans sa poche. En jonglant, pourrait-on dire. Si j'arrive, du fond de ma prison, à éviter ses coups et à le démolir, à voir le vieux Steinweg et à lui arracher sa confession, à mettre debout l'affaire Kesselbach, et à la réaliser intégralement, à défendre Madame Kesselbach et à conquérir le bonheur et la fortune pour Geneviève, eh bien vrai, c'est que Lupin sera toujours Lupin, et pour cela, commençons par dormir. » Il s'étendit sur son lit en murmurant « Steinweg, patiente pour mourir jusqu'à demain soir, et je te jure, il dormit toute la fin du jour, et toute la nuit, et toute la matinée.
Vers 11 heures, on vint lui annoncer que maître Campbell l'attendait au parloir des avocats, à quoi il répondit « Allez dire à maître Campbell que s'il a besoin de renseignements sur mes faits et gestes, il n'a qu'à consulter les journaux depuis 10 ans. Mon passé appartient à l'histoire. » À midi, même cérémonial et même précaution que la veille pour le conduire au palais de justice. Il revit l'aîné des Doudeville avec lequel il échangea quelques mots et auquel il remit les 3 lettres qu'il avait préparées et il fut introduit chez M. Formery. Maître Campbell était là, porteur d'une serviette bourrée de documents. Lupin s'excusa aussitôt. « Tous mes regrets, mon cher maître, de n'avoir pu vous recevoir, et tous mes regrets aussi pour la peine que vous voulez bien prendre. Peine inutile, puisque... »« Oui, oui, nous savons, » interrompit M. Formery, « que vous serez en voyage. C'est convenu. Mais d'ici là, faisons notre besogne. » Arsène Lupin, malgré toutes nos recherches, nous n'avons aucune donnée précise sur votre nom véritable. Comme c'est bizarre, moi non plus. Nous ne pourrions même pas affirmer que vous êtes le même Arsène Lupin qui fut détenu à la Santé en 1900 et quelques et qui s'évada une première fois. Une première fois est un mot très juste. Il arrive en effet, continua M. Formery, que la fiche Arsène Lupin retrouvée au service anthropométrique donne un signalement d'Arsène Lupin qui diffère en tout point de votre signalement actuel. De plus en plus bizarre. Indications différentes, mesures différentes, empreintes différentes. Les deux photographies elles-mêmes n'ont aucun rapport. Je vous demande donc de bien vouloir nous fixer sur votre identité exacte. C'est précisément ce que je désirais vous demander. J'ai vécu sous tant de noms différents que j'ai fini par oublier le mien. Je ne m'y reconnais plus. Donc, refus de répondre. Oui. Et pourquoi? Parce que... C'est un parti pris? Oui. Je vous l'ai dit, votre enquête ne compte pas. Je vous ai donné hier mission d'en faire une qui m'intéresse. J'en attends le résultat. Et moi, s'écria M. Formery, je vous ai dit hier que je ne croyais pas un traître mot de votre histoire de Steinweg et que je ne m'en occuperais pas. Alors, pourquoi hier, après notre entrevue, vous êtes-vous rendu Villa Dupont et avez-vous, en compagnie du sieur Weber, fouillé minutieusement le numéro 29 ? Comment savez-vous ? Fit le juge d'instruction, assez vexé. Par les journaux. Ah, vous lisez les journaux. Il faut bien se tenir au courant. J'ai, en effet, par acquis de conscience, visité cette maison, sommairement, et sans y attacher la moindre importance. Vous y attachez au contraire tant d'importance, et vous accomplissez la mission dont je vous ai chargé avec un rôle si digne d'éloge, qu'à l'heure actuelle, le sous-chef de la sûreté est en train de perquisitionner là-bas. M. Formery sembla médusé. Il balbutia. « Quelle invention ! Nous avons, M. Weber et moi, bien d'autres chats à fouetter. » À ce moment, un huissier entra et dit quelques mots à l'oreille de M. Formery. « Qu'il entre ! » s'écria celui-ci. « Qu'il entre ! » Et se précipitant, « Eh bien, M. Weber, quoi de nouveau ? Vous avez trouvé cet homme ?» Il ne prenait même pas la peine de dissimuler tant il avait hâte de savoir. Le sous-chef de la sûreté répondit « Rien ». « Ah, vous êtes sûr ? J'affirme qu'il n'y a personne dans cette maison, ni vivant ni mort. Cependant, c'est ainsi, monsieur le juge d'instruction. » Ils semblaient déçus tous les deux, comme si la conviction de Lupin les avait gagnés à leur tour. « Vous voyez, Lupin ?» dit monsieur Formery d'un ton de regret, et il ajouta « Tout ce que nous pouvons supposer, c'est que le vieux Steinweg, après avoir été enfermé là, n'y est plus. » Lupin déclara. « Avant-hier matin, il y était encore. » « Et à 5 heures du soir, mes hommes occupaient l'immeuble, » nota M. Weber. « Il faudra donc admettre, » conclut M. Formery, « qu'il a été enlevé l'après-midi. »« Non, » dit Lupin. « Vous croyez ?» Hommage naïf à la clairvoyance de Lupin, que cette question instinctive du juge d'instruction, que cette sorte de soumission anticipée à tout ce que l'adversaire décréterait. Je fais plus que de le croire, affirma Lupin de la façon la plus nette. Il est matériellement impossible que le sieur Steinweg ait été libéré à ce moment. Steinweg est au numéro 29 de la Villa Dupont. M. Weber leva les bras au plafond. Mais c'est de la démence, puisque j'en arrive, puisque j'ai fouillé chacune des chambres. Un homme ne se cache pas comme une pièce de 100 sous. « Alors, que faire ?» gémit M. Formery. « Que faire, monsieur le juge d'instruction ?
riposta Lupin. « C'est bien simple. Montez en voiture et me menez avec toutes les précautions qu'il vous plaira de prendre au 29 de la Villa Dupont. Il est 1 heure. À 3 heures, j'aurai découvert Steinweg. » L'offre était précise, impérieuse, exigeante. Les deux magistrats subirent le poids de cette volonté formidable. M. Formery regarda M. Weber. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'opposait à cette épreuve? Qu'en pensez-vous, M. Weber?
Oh, je ne sais pas trop.
Oui, mais cependant, s'il s'agit de la vie d'un homme...
Évidemment,
formula le sous-chef qui commençait à réfléchir. La porte s'ouvrit. Un huissier apporta une lettre que M. Formery décacheta et où il lut ces mots. Défiez-vous. Si Lupin entre dans la maison de la Villa Dupont, il en sortira libre. Son évasion est préparée. Elle aime. M. Formery devint blême. Le péril auquel il venait d'échapper l'épouvantait. Une fois de plus, Lupin s'était joué de lui. Steinweg n'existait pas. Tout bas, M. Formery marmotta des actions de grâce. Sans le miracle de cette lettre anonyme, il était perdu, déshonoré.
Assez pour aujourd'hui, dit-il. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Garde, que le reconduise le détenu à la santé.
Lupin ne broncha pas. Il se dit que le coup provenait de l'autre. Il se dit qu'il y avait 20 chances contre 1 pour que le sauvetage de Steinweg ne pût être opéré maintenant, mais que, somme toute, il restait cette 21e chance et qu'il n'y avait aucune raison pour que lui, Lupin, se désespérât. Il prononça donc simplement « Monsieur le juge d'instruction, je vous donne rendez-vous demain matin à 10 heures au 29 de la Villa Dupont.
Vous êtes fou, mais puisque je ne veux pas.
Moi, je veux, cela suffit. À demain, 10 heures, soyez exact. »